un podcast France Culture.
Près de 6 mois après le début de l'offensive israélienne, la famine s'étend dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, plus d'un million de personnes devraient être confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire catastrophiques d'ici au mois de juillet, soit un habitant sur deux. Pourtant, les camions transportant de l'aide continuent de passer au Kongout, à Rafah et Kerem Shalom. Jeudi dernier, la Cour internationale de justice a sommé Israël de faciliter de toute urgence l'entrée de l'aide humanitaire dans un territoire où, selon le Hamas, plus de 32 000 personnes ont déjà perdu la vie. Gaza, la logistique du secours, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons 3 invités. Charlotte Schneider, directrice des opérations et des programmes d'action contre la faim. Philippe Bonnet, en duplex de Tours, directeur des urgences pour Solidarité internationale. Et Pascal Dauvin, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Saclay, spécialiste des questions humanitaires. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Tom Umdenstock, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Il n'y a plus de nourriture ni de boisson. Ils nous donnent du fourrage pour les ânes au lieu de la farine. Les enfants n'ont rien à manger, ils meurent de faim.
En ce qui concerne l'aide, une des plus grandes erreurs est que les colis sont jetés dans des endroits dangereux comme la mer, car cela conduit à la noyade pour ceux qui vont chercher de l'aide.
La situation est tragique. Pas de nourriture, pas d'eau. C'est la famine. Que pouvons-nous faire?
Il y a une pénurie de tout ce qui a trait à l'alimentation, ce qui entraîne de graves problèmes de santé pour les enfants. Les maladies de la famine, qui sont l'anémie chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, ainsi que les maladies qui affectent les personnes en raison de la malnutrition, telles que les maladies rénales et les faibles niveaux de sel dans le sang, sont des maladies graves.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, après un premier convoi, mi-mars, un deuxième navire humanitaire a quitté samedi l'île de Chypre pour se rendre à Gaza. C'est une aide déterminante pour une population qui souffre toujours plus de la faim, comme on l'a entendu dans ces témoignages recueillis par des journalistes de l'AFP ces dernières semaines, Charles Schneider.
Tout à fait. La transition entre cette énorme question politique de l'accès à l'aide et donc de l'ouverture des frontières terrestres vers des solutions qu'on appelle, nous, dans le milieu humanitaire, des solutions dégradées d'affrètement par air ou par bateau, est bien encore un phénomène autour de l'enjeu politique que représente l'ouverture des frontières terrestres. Pour rappel, en moyenne, 24 camions peuvent passer les points frontières toutes les semaines, alors que le besoin serait au moins 2-10 fois plus pour répondre à une situation humanitaire catastrophique sur tout Gaza.
Et des centaines de milliers de personnes souffrent déjà de la faim dans la bande de Gaza, Philippe Bonnet, et ce chiffre devrait encore augmenter.
C'est en tout cas les prévisions, hein. La situation est catastrophique et elle ne va pas s'améliorer. Vous avez mentionné cette assistance par bateau, mais en réalité, c'est pas du tout un acte d'approvisionnement humanitaire, c'est un acte politique. C'est-à-dire que ce bateau va arriver avec l'équivalent de 40 tonnes, c'était le cas la dernière fois. 40 tonnes, c'est 5 camions. Or, il y a des milliers de camions qui attendent au point de passage de Kerem Shalom et de Rafah. Et donc finalement, si on arrive à avoir un levier politique pour que Israël accepte qu'un bateau arrive sur les côtes, ayons-le pour ouvrir ces points de passage, les ouvrir plus largement et faire en sorte que les centaines, voire les milliers de camions qui attendent au point de passage puissent rentrer. Donc il y a quand même un certain flux qui se fait, hein, dans les trois derniers mois. On est à 280 000 tonnes qui sont passées, la plupart par Rafah, hein, de 220 000 tonnes par Rafah et à peu près 50 000 tonnes par Kerem Shalom, ce qui représente effectivement, comme l'a dit Charlotte, un nombre limité de camions. Il faudrait beaucoup plus et nous, on veut vraiment continuer à faire un plaidoyer pour ouvrir largement ces points terrestres, parce que finalement, que ce soit les parachutages de vivres ou l'ouverture de ce flux maritime à c'est pas ça qui permettront de régler les problèmes de famine, des problèmes d'accès à l'eau. Ça, ce sont évidemment des actes politiques des États concernés pour montrer à Israël qui veulent intervenir à tout prix. Enfin, en tout cas, mais le secours aux populations, le fait que les gens aient à manger dans leur assiette et de l'eau potable. Hein, on est quand même aujourd'hui à 3 litres par jour. Je sais pas si vous imaginez 3 litres par jour, c'est même pas ce qu'on utilise pour faire chauffer des pâtes. Par personne, oui. C'est pas par la mer que ça va arriver. Donc, il faut absolument rouvrir ces points de passage, voire en ouvrir d'autres.
Hein. Il faut expliquer, Philippe Bonnet, qu'à l'heure actuelle, il y a deux corridors humanitaires. Hein. L'un qui va vers Rafah et l'autre qui a été ouvert au mois de décembre et qui passe par Kerem Shalom. Et les deux sont situés dans le sud de la bande de Gaza, alors même que là où la situation humanitaire est sans doute le plus dramatique, c'est dans le nord de ce territoire, Philippe Bonnet.
Alors oui, c'est là effectivement où alors il y a le plus de destruction. Hein, c'est un champ de ruines. Il y a quasiment plus de vivres. Les vivres donc arrivent plus difficilement pour des raisons de sécurité et évidemment aussi de restrictions des autorités israéliennes hein, qui laissent passer au compte-gouttes encore plus que sur ce qui arrive par les points de Kerem Shalom et Rafah. Et une fois Kerem Shalom et Rafah, ces camions doivent arriver jusqu'au nord. Il y en a très peu qui arrivent. Et donc c'est évidemment là, et c'est là où il y a eu les combats depuis le début, depuis le 27 octobre. C'est là où il y a eu les combats les plus féroces et le plus haut niveau de destruction.
On l'a dit, ce qu'il manque, c'est la nourriture, c'est l'eau, ce sont aussi des kits médicaux, alors même que les hôpitaux largement détruits dans la bande de Gaza ont de moins en moins les moyens de porter secours à la population gazaoui, Charlotte Schneider.
Tout à fait. La situation pour nos équipes, toutes les équipes présentes sur place, qu'elles soient d'ONG humanitaires, qu'elles soient d'agences UN, et donc là, vraiment, je repointe très fortement le rôle central de l'agence UNRWA et la seule agence étant en capacité de justement déployer et de coordonner l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, notre personnel dans toutes les structures qui travaillent sur place sont également des bénéficiaires de l'aide. Tous les jours, ils cherchent à maintenir en vie leur famille, à accéder à de la nourriture, à accéder aux médicaments, à accéder aux produits d'hygiène, à accéder à l'eau, à accéder à des conditions suffisantes d'hygiène. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'effectivement, malgré ces très très fortes restrictions encore sur les frontières terrestres, on a des camions qui rentrent, comme le disait Philippe, on a la capacité de travailler, mais sur de la toute petite échelle, avec nous, ACF, par exemple, sur, depuis le début de la crise, 1 million de litres d'eau distribués et de la désobstruction sur les eaux usées, de la désobstruction en termes de déchets qui s'accumulent dans la bande de Gaza, le fait de pouvoir faire de la réhabilitation de pipelines qui amènent l'eau, ça représente une aide totale entre l'hygiène, les distributions de kits d'hygiène, les distributions de kits alimentaires, l'appui aux hôpitaux en médicaments, un appui à 430 000 personnes pour environ donc une population de 2,3 millions d'habitants qui est totalement enfermée dans la bande.
Acheminer de l'aide humanitaire, Pascal Dauvin, c'est un casse-tête logistique, on le comprend, c'est aussi un casse-tête diplomatique, puisque si l'on compare Gaza avec aujourd'hui un autre grand théâtre de guerre qui est l'Ukraine, on voit que il a été possible dès le début de la guerre en Ukraine d'acheminer l'aide là où c'est extrêmement compliqué du côté de Gaza.
Alors, je voudrais revenir d'abord sur le petit reportage que vous avez diffusé en début d'émission. Si l'humanitaire s'est essayé de mettre, c'est pas seulement ça, mais au moins essayer de mettre un peu d'ordre dans du désordre, il est clair au regard des témoignages que vous avez diffusés que le compte n'y est pas et que les dispositifs humanitaires, un certain nombre de dispositifs, notamment les parachutages, sont une solution qui paradoxalement crée peut-être davantage de désordre que d'ordre et donc des situations, pour utiliser un terme un peu fort, quasi-obésienne.
C'est-à-dire
quasi-obésienne, ça veut dire que vous distribuez de l'aide et que cette distribution, elle se termine avec des coups de feu et des morts. Donc la solution provoque plus de dégâts qu'elle ne permet de résoudre des solutions. Et ce qui a été dit, et je pense que c'est vraiment très important par Charlotte et Philippe, c'est que au-delà de ces dispositifs qui créent finalement parfois plus de mal qu'elles ne provoquent de bien, les dispositifs possibles, ceux qui ont été ou qui viennent d'être évoqués, sont des dispositifs de bricolage, parce qu'on ne peut pas faire autrement et on ne peut pas aller au-delà du bricolage pour une raison très simple qui a très bien été dite par les deux intervenants précédemment, c'est que la logistique, elle n'existe que si les conditions de la logistique existent, et ces conditions, elles sont d'abord des conditions politiques. Alors vous dites, entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine du point de vue de l'aide humanitaire est dans une configuration ou se situe dans une configuration différente du point de vue diplomatique, parce que les intérêts de ceux qui financent et qui organisent cette aide ne sont pas les mêmes, ou en tout cas les positionnements diplomatiques ne sont pas les mêmes. Donc ça explique que c'est moins, ça veut pas dire que c'est simple, hein, mais c'est moins compliqué en Ukraine de mettre en œuvre une politique logistique que ça l'est en tout cas à Gaza.
Philippe Bonnet, sur la comparaison entre l'Ukraine et Gaza dans la mise en œuvre de la logistique humanitaire.
Alors dans les deux cas, il n'y avait pas de problème logistique. Le problème, il n'est pas logistique. Le problème, les camions, ils sont là, ils sont pleins. Ils attendent. Le problème, c'est les autorisations pour les faire rentrer. Et donc, en Ukraine, hein, où nous, on est intervenu dès le 28 février, on était face à un État ukrainien et des États frontaliers polonais ou autres qui facilitaient l'entrée et qui nous ont laissé rentrer, opérer sans entrave. Le problème sur la bande de Gaza, elle est sous blocus. Elle est sous blocus. Tous les biens ne peuvent pas rentrer.
Notamment parce que certains sont soupçonnés de pouvoir être utilisés de façon illicite, Philippe Bonnet.
C'est le principe du double usage. Si un bien peut avoir un double usage, il ne peut pas rentrer. Et il n'y a pas de liste fixe. Par exemple, dans nos kits d'hygiène qu'on distribue, normalement, il y a des coupe-ongles. Les coupe-ongles, c'est de l'acier. Ça peut se fondre et être réutilisé. Donc, si dans votre kit, il y a un coupe-ongle, l'ensemble de votre camion est rejeté à la frontière. Pour nous qui faisons de l'accès à eau et de la réhabilitation d'infrastructures, notamment dans la bande de Gaza, un tuyau peut servir à réparer un réseau d'eau, mais il peut servir putativement à faire une roquette. Et ça va tellement loin que quand on a voulu envoyer des camions avec des dattes fraîches, on nous a dit que c'était pas possible parce qu'il y avait des noyaux dedans et que c'était interdit. Donc c'est un casse-tête pour arriver à faire passer ces biens. Donc les blocages, la frontière n'est pas toujours fermée, le flux n'est pas suffisant, la liste de ce qui ne peut pas rentrer et enfin le scanner, c'est-à-dire que tout ce qui rentre doit être scanné. Même quand il n'y a pas de blocage spécifique, les flux qui permettent de rentrer sont limités par le nombre de scanners et le temps pour scanner les camions qui rentrent.
Donc le blocage est politique, diplomatique, bien plus que logistique pour vous aussi, Charles Chandler.
Tout à fait. Je plussois ce qui vient d'être dit par Solidarité Internationale. Chez Action contre la faim, on a aujourd'hui un temps passé absolument phénoménal sur le remplissage de tous les formulaires pour autoriser les camions à passer. On a des refus qui sont souvent très importants, vraiment un taux élevé de refus, avec une difficulté de comprendre la raison des refus. Donc là, Philippe a cité quelques cas. Nous, on peut avoir des refus sur des... par exemple, des kits d'hygiène, des seaux, etc. Et puis, le camion d'après, ça va passer. Donc, une espèce d'instabilité qui est très, très compliquée pour nous, en tant qu'opérateurs, on va dire, de savoir comment est-ce qu'on ajuste le volume qui est mis dans les camions, comment est-ce qu'on peut faire face à ces inspections qui sont extrêmement longues, des allers-retours permanents, et qu'évidemment, on ne peut pas ne pas considérer comme politique.
Nous sommes nés pour l'urgence, la grande catastrophe spectaculaire,
bon, celle dont tout le monde parle. Le Liban ou les tremblements de terre, des
voilà,
choses comme
Liban
ça.
Liban ou tremblements de terre. Alors pour le Liban, comme vous le savez peut-être, ça a bien marché, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous sommes vraiment intervenus pendant un an dans un quartier palestinien et musulman encerclé par les chrétiens à Beyrouth. Ça a posé les problèmes que vous pouvez imaginer vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de tout le monde. Et nous avons travaillé donc dans ce quartier de Naba pendant presque un an, et une cinquantaine de médecins, chirurgiens, infirmières français de Médecins Sans Frontières sont passés là. Donc là, personne ne nous faisait de la concurrence, n'est-ce pas ? Les médecins étaient plutôt partis du Liban, et seule la Croix-Rouge internationale intervenait ailleurs, à côté de nous. Là, pas de difficulté, au contraire, nous sommes fait une sinistre spécialité de cette chirurgie de guerre. Et ça, ça continue à être opérationnel, et on nous appellera encore. Ou en tout cas, nous irons même si on ne nous appelle pas. Par ailleurs, la grande catastrophe, tremblement de terre, ouragan Fifi au Honduras, tremblement de terre du Pérou, tremblement de terre du Nicaragua, tremblement, etc. Nous avons évidemment pas renoncé à ce genre de pratique, mais c'est toujours très difficile. Il faut être sur place très très vite, dans les 24 heures, dans les quelques heures, avec des équipes extraordinairement prêtes, parlant la langue du pays, et à l'appel des autorités locales. Car sinon, on désorganise plus qu'on aide. On devient une charge plus qu'on vient prêter la main.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Gaza, la logistique du secours. Nous en parlons aujourd'hui avec Charlotte Neder, Philippe Bonnet et Pascal Dauvin. On vient d'entendre Bernard Kouchner, l'un des fondateurs de Médecins Sans Frontières, dans une archive du 11 octobre 1977. Alors nous nous intéressons toute cette semaine à l'économie de l'aide humanitaire. Ce qui distingue l'humanitaire de l'aide au développement, par exemple, c'est justement le fait d'intervenir dans l'urgence, Pascal Dauvin.
Alors vous avez une archive de 77, la naissance de MSF c'est 71, dans un contexte assez particulier dans lequel en gros l'idée c'est à la fois d'intervenir sur des situations qui sont principalement des situations d'urgence, avec un autre volet dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est le volet de la nécessaire prise de parole sur les atteintes notamment aux droits de l'homme dans les situations de conflit. Mais là, ce dont parle Bernard Kouchner, c'est la possibilité qui est donnée à un moment donné à des organisations qui sont des organisations non gouvernementales d'intervenir à l'appel des gouvernements ou à l'appel des populations locales dans lesquelles se posent les problèmes. Mais on a une époque qui est pas encore l'humanitaire d'État, ou en tout cas à une époque où l'humanitaire n'a pas encore été prise en compte par l'État, à la fois du point de vue des instrumentalisations diplomatiques et politiques possibles, et aussi du point de vue des financements. 77, les ONG, elles interviennent sur des fonds qui sont des fonds propres. Le N de non-gouvernemental a un sens qui n'est pas exactement le même que celui d'aujourd'hui. Les systèmes d'emboîtement, notamment en termes de déploiement de l'aide, ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On n'a pas d'encastrement en cascade de différentes organisations qui vont de la volonté des bailleurs en passant par les UN, par les organisations, les ONG internationales et les ONG locales. On a des ONG internationales qui partent. Alors, qui partent, là, Bernard Kouchner le dit peut-être avec beaucoup d'optimistes, elles partent aussi sans avoir véritablement d'organisation, sans avoir véritablement d'autorisation à cette époque et sans savoir toujours ce qu'elles vont faire, parce que les missions exploratoires sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui et parce que les méthodologies Action contre la faim, le sait bien, sont pas les mêmes non plus que celles d'aujourd'hui.
On va parler de la question de la professionnalisation de l'aide humanitaire et également on reviendra demain sur la question des financements, mais je parlais de l'urgence, Philippe Bonnet, parce que peut-être que c'est ce qui caractérise l'aide humanitaire, même si ce dont on se rend compte, c'est que les ONG qui souhaitent intervenir de façon ponctuelle ont parfois tendance à rester. On l'observe par exemple en République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tension justement entre cette notion d'urgence, d'aide ponctuelle, et puis cette durée de l'aide qui tend à se perpétuer, Philippe Bonnet?
Alors, je pense que dans chaque contexte, il y a des situations particulières. Nous, Solidarité Internationale, on est une organisation d'urgence. Mais en réalité, même si la majeure partie de nos interventions sont des interventions d'urgence, on a aussi des activités qui consistent en post-urgence à rétablir la résilience des personnes qui ont été victimes des crises, voire parfois aller jusqu'à du développement, même si c'est pas le principal de notre portfolio. Donc finalement, quand on a une crise, on a une population qui vivait à un niveau et qui se retrouve en risque vital, qui voit son niveau de vie et ses capacités de subvenir à ses besoins les plus primaires chuter, et dans l'urgence on va venir les rétablir à la situation où ils étaient avant. On va les empêcher de mourir. Mais le second step, ça va être évidemment de la résilience, les rendre plus résistants à une prochaine crise, afin qu'ils puissent mieux y résister. Puis finalement, le step suivant, c'est le développement. Ça sera de les amener plus dans une situation meilleure que celle à laquelle ils étaient avant la crise. Donc il y a rien d'antinomique. On a plusieurs départements. On a toute une gamme d'activités, de projets et de programmes qui dépendent de la situation, même si l'essentiel des activités de solidarité internationale sont tournées vers l'urgence et dans les zones difficilement accessibles de conflits ou de catastrophes naturelles.
Pascal Dauvin.
Oui, je voudrais revenir sur la question que vous posiez précédemment et sur peut-être ce qui différencie au moins au départ l'idée de l'humanitaire d'urgence du développement, c'est que dans la pensée des sans-frontiéristes, le développement, il est considéré comme néocolonialiste et la naissance du sans-frontiérisme, c'est l'idée d'aller dans une situation qui nécessite une intervention rapide sans devoir se substituer. C'est-à-dire, on part, on va, on témoigne et on ne reste pas. Il se trouve que la professionnalisation dont vous avez parlé et qui est l'état de l'humanitaire aujourd'hui a conduit à faire sauter finalement la dichotomie qui existait entre d'un côté la question de l'urgence et de l'autre la question du développement, et que à cette dichotomie on a substitué un autre cadre cognitif qui a été d'ailleurs utilisé par Philippe Bonnet tout de suite, qui est le terme de crise. C'est-à-dire que le terme de crise, il permet finalement à des organisations qui avait vocation à faire seulement de l'urgence, d'être à la fois là avant l'urgence, pendant l'urgence et après l'urgence.
Charlotte Neder.
Oui, et pour compléter ça, effectivement, en 77, c'est il y a 47 ans. Et entre-temps, le monde a énormément changé. Et ce que moi, je voudrais peut-être apporter, en plus de ce qui a été dit, c'est Action contre la faim. On fait face, dans plusieurs de nos terrains d'intervention, à des urgences qui durent. D'où le fait de parler maintenant de crise durable. Et donc, il y a à la fois un volet développer la capacité des populations locales à faire face elles-mêmes. Aujourd'hui, nous, sur nos terrains d'intervention, vous citiez le Congo à l'instant, je pourrais vous citer le Yémen, une guerre qui dure depuis 9 ans. On appelle ça toujours une urgence. La situation en termes d'accès aux ressources pour juste rester en vie pour les populations est la même depuis 9 ans, c'est-à-dire extrêmement complexe. Et donc, on a à la fois un volet où on cherche à rendre les populations plus résilientes face à ces chocs et à pouvoir elles-mêmes répondre en grande partie à des chocs qui se surajoutent à des chocs. Par exemple, la crise des M23 en ce moment sur l'est du Congo, c'est à 97% des Congolais qui répondent, qu'ils soient d'Action contre la faim, qu'ils soient d'ONG locales, qu'ils soient, etc., d'autres acteurs. Et on cherche évidemment à pouvoir être à côté des populations quand le choc dépasse leur capacité de réponse. Et donc, ça veut dire effectivement ce cercle-là qui aujourd'hui est le cœur du métier. Il n'empêche qu'il y a évidemment des très forts débats, et là-dessus je rejoins la question des financements, ce qu'on appelle la confusion des lignes. Les agendas humanitaires doivent rester autour de la stricte réponse à des besoins de base, c'est-à-dire une quantité en eau, une quantité en nourriture et des soins pour des personnes qui sinon mourraient. Et le reste, la résilience, le développement, peuvent être, et le sont déjà en termes de financement, liés à des politiques plus globales des gouvernements, mais cette muraille de Chine qu'il faut garder entre l'humanitaire et le reste des réponses apportées pour augmenter la capacité de résistance, la capacité de réponse au choc, doit rester.
On le voit bien, les ONG humanitaires répondent avec une aide d'urgence aux différentes crises, mais ces ONG sont souvent là avant la crise. C'est en effet l'un des enjeux pour les humanitaires, c'est de réussir à anticiper, Charlotte Schneider.
Alors oui, tout à fait. Après, voilà, si je prends l'exemple d'Action contre la faim, la plupart de nos terrains d'intervention, où encore aujourd'hui, on est sur des réponses qu'on appelle des réponses d'urgence, des réponses humanitaires, sont des terrains sur lesquels la présence d'ACF date de quasi quasiment sa création. Je pense au Yémen, je pense à l'Afghanistan, je pense à, au Congo, je pense au Nigeria.
Au Pakistan, pendant les inondations de 2022.
Exactement. Et donc, on est sur cette espèce de paradoxe total, mais qui est celui de notre monde. Je veux dire, la déclaration date de 77, regardez comment le monde a changé en 50 ans, qui est d'être en volonté sans arrêt de pouvoir partir, mais de ne pas le pouvoir, parce que la résistance au choc des populations continue à être un sujet extrêmement complexe, que ce soit lié à des facteurs humains type conflit, ou que ce soit lié aussi au dérèglement climatique. Les terres arables se réduisent, l'accès à l'eau devient plus complexe, donc provoque des tensions entre les populations. Et puis, le fait d'accompagner des institutions, ce que fait aujourd'hui Action contre la faim sur la sous-nutrition, c'est d'accompagner des ministères de la Santé, d'être un acteur technique pour développer leurs capacités, leur outillage, leurs procédures, etc.
Sur cette capacité des ONG à anticiper, Philippe Bonnet, j'imagine que c'est plus ou moins possible. Il y a des chocs qui surviennent aussi par surprise.
Alors c'est pour ça qu'on a une direction des urgences chez Solidarité et qu'on est en capacité avec des moyens prépositionnés, avec des équipes prépositionnées, d'intervenir rapidement. Partout. Vous mentionniez l'inondation au Pakistan. Solidarité n'était plus au Pakistan. On a réouvert la mission pour intervenir. Solidarité n'était pas présent à Gaza avant la crise. On a des équipes qui ont travaillé pour pouvoir rentrer et qui sont maintenant en train de travailler à Gaza alors qu'on n'était pas présent. Donc nous, en tant que direction des urgences, on est spécialisé et ça fait des années qu'on fait ce travail d'intervenir, et c'est notre mandat d'intervenir là où l'organisation n'est pas, parce que comme on est une organisation d'urgence, si on est présent, nos missions qui sont présentes dans les pays sont en capacité de réponse.
Oui, il faut intervenir le plus vite possible, mais il faut ensuite réussir à évaluer la situation sur place, l'ampleur de la crise, la réalité des besoins. Quels sont les outils dont disposent les ONG pour cela, Charlotte Schneider?
Alors, il y a énormément d'outils, donc Philippe pourrait très bien répondre. On a, je pense, quand même un gros effort de coordination, en particulier via toute la coordination faite par les Nations Unies. On a énormément d'outils d'évaluation rapide qui peuvent du coup nous permettre, en particulier dans des crises entre guillemets classiques, choléra, inondations, cyclones, donc plutôt provoquées par épidémies et ou catastrophes naturelles, à déployer extrêmement rapidement, à évaluer de manière extrêmement rapide. Vous disiez tout à l'heure, ça peut être complexe d'évaluer. Oui, toujours, d'autant plus qu'on a un sujet autour des barrières à l'accès, c'est-à-dire parfois ça peut être des barrières géographiques. On prend le Pakistan au moment des grandes inondations il y a 2 ans, on est sur un pays où il y a des milliers de kilomètres carrés non accessibles. Donc là, le fait d'avoir pu anticiper, le fait d'avoir des populations qui ont des réflexes, des stocks, des lieux de rassemblement, aide à sauver des vies de manière immédiate.
Oui, il ne faut oublier personne, Pascal Dauvin. Ce qui est visé, c'est la couverture complète d'une zone donnée.
Je ne sais pas si on peut viser la couverture complète d'une zone donnée. En tout cas, les méthodologies qui sont à l'œuvre, elles visent à être au moins éloignées possible de cet objectif. C'est pour ça qu'il y a dans le processus de managérialisation de l'aide humanitaire des standards qui ont été établi à la fois par les Nations Unies, par les bailleurs, et qui sont mis en œuvre par les ONG qui sont financées par ces organisations. Après, il y a des standards qui sont aussi des standards qui sont liés à un secteur d'activité ou à une compétence particulière des ONG. Donc les ONG, Action contre la faim, notamment, c'est parfaitement bien développé des méthodologies qui sont des méthodologies propre.
Donc une standardisation de l'aide humanitaire et en même temps, Philippe Bonnet, chaque agence a aussi ses propres savoir-faire.
Alors, chaque agence a ses savoir-faire. La standardisation, elle a quand même ses limites. Hein. Chaque crise est différente et demande une réponse différente. Alors oui, il y a ces tendances à la standardisation et finalement, ça peut avoir des avantages, mais on essaye quand même à chaque fois d'évaluer les besoins et d'avoir une réponse qui correspond exactement aux besoins des populations.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Philippe Bonnet, de cette standardisation, qu'on comprenne bien?
Par exemple, ça va être, en ce qui concerne l'aide alimentaire, un nombre de calories par personne et par jour qui répond aux standards d'urgence. Ça va être les standards par rapport à la qualité de l'eau, qui doit avoir certaines qualités, mais et qui permet de mettre un cap pour les interventions. Si on prend par exemple l'accès à l'eau, selon les agences des Nations Unies ou les donneurs, il y a des standards de 15 à 20 litres d'eau. Évidemment, il y a des tas de cas où on n'arrive pas à atteindre ces standards parce que la ressource n'est pas suffisante. Ou c'est le cas aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais on va arriver à avoir des minimums qui seront pas des standards. On appelle ça des standards sphères, hein, par écho, mais qui sont des standards que nous savons suffisent à la survie des populations.
Donc il faut des standards qui sont des indicateurs, même si on n'arrive pas toujours à les atteindre, Charlotte Schneider.
Tout à fait. Ça, si je peux citer un exemple aussi, c'est les kits d'hygiène. On a heureusement des standards qui permettent d'avoir d'abord une adaptation au contexte local. Tout à l'heure, Philippe citait l'exemple du coupe-ongle. Je me rappelle au niveau de la réponse d'urgence Ayan, le super typhon sur les Philippines il y a quelques années, il y avait eu un très gros débat autour de la constitution du kit d'hygiène pour qu'il soit justement adapté aux habitudes locales et donc il n'est pas de contre-utilisation ou d'effet néfaste, hein, toute cette question du fameux do no harm pour justement convenir aux besoins des populations. D'autre part, il y a une question de coût. Quand on fait du très gros volume au niveau de ces kits d'hygiène, ça permet de réduire les coûts. Et enfin, une coordination entre agences. Dans des lieux comme le Congo, si les kits sont très différenciés, ça fait un appel d'air et du coup des très fortes tensions et parfois des risques sécuritaires élevés lors des moments de distribution. Si l'agence avec le logo rouge distribue un super kit et que l'agence à côté distribue un kit standard minimaliste, ça peut provoquer des incidents sécuritaires importants. Donc on revient à la question de produire plus de dégâts qu'on cherche à en résoudre.
Pascal Dauvin ?
Oui, je voulais dire, la standardisation, finalement, ça apparaît un peu comme un lieu de tension au double sens du terme. C'est d'abord un lieu de tension parce que on cherche à aller au plus près de la vérité d'une situation, si tant est qu'on puisse l'approcher au plus près. Et pour ça, il faut essayer d'objectiver dans des catégories qui sont crédibles, en tout cas pour ceux qui mettent en place l'aide et ceux qui la financent, c'est-à-dire des catégories rationnelles, d'où l'usage de méthodologies qui sont fondées sur des rhétoriques, qui sont des rhétoriques et des protocoles de scientificité. Et c'est un lieu de tension aussi, parce que on voit bien comment parfois les humanitaires font de la résistance par rapport aux standards et par rapport à un humanitaire qu'ils considèrent comme celui des guidelines. Donc la question, c'est aussi quelle est la marge de manœuvre et quel est l'usage qu'on peut faire en fonction des situations, finalement, de l'acteur lui-même. Quel est l'usage que l'acteur peut faire lui-même de ces standards et comment il n'y est pas soumis.
En 1984, avec Do They Know It's Christmas, les Britanniques de Band-Aid inventent un nouveau genre, la chanson humanitaire. Le chanteur Renaud s'inscrit dans leur pas avec son titre Éthiopie. Écoutez.
Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Mais à chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident,
notre ciel devient plus sombre et notre avenir moins grand.
Sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre.
Ouais.
écoutez France Culture. Entendez-vous l'écho Gaza, la logistique du secours? C'est notre sujet aujourd'hui. Le politiste Pascal Dauvin, le directeur des urgences pour Solidarité Internationale Philippe Bonnet et la directrice des opérations d'action contre la faim Charlotte Schneider sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Dalia. Une réaction peut-être, Pascal Dauvin, à cette chanson de Renaud que l'on vient d'entendre?
Alors oui, une réaction un peu amusée, mais vous auriez pu mettre la chanson de Renaud en comparaison avec celle de Michael Jackson. Alors on aurait pu faire une comparaison musicale, mais on peut aussi faire une comparaison en termes d'approche de l'Éthiopie et de ce qui s'y passe. Pour les Américains, et d'ailleurs c'est beaucoup de chanteurs afro-américains, c'est peut-être pas complètement non plus un hasard, on est dans un message qui a une portée plutôt universaliste, alors que là on est dans un message où on distingue bien d'un côté l'Éthiopie et de l'autre ce qu'il y a ici. Alors après, cette chanson, elle est aussi tout à fait révélatrice d'un moment qui est un peu un moment charnière dans l'histoire de l'humanitaire, avec le développement du fundraising, l'Éthiopie, enfin, c'est une des crises ou un des conflits qui a mobilisé le plus. Dans le même temps, enfin, c'est une mobilisation qui n'ira pas sans poser un certain nombre de problèmes et de discussions, puisque on sait que l'aide humanitaire a été détournée, qu'elle a été détournée, instrumentalisée à des fins politique, et que ça finit par susciter une prise de parole dans le sens sans frontiériste des origines, qui a conduit à l'expulsion de Médecins Sans Frontières. Donc c'est pour ça aussi que derrière cette chanson et derrière toute la bonne volonté et toute la bonne conscience, il y a des enjeux qui se jouent et qui sont extrêmement complexes.
Des enjeux complexes, en effet. On a commencé à parler de la professionnalisation des ONG humanitaires. Cela intervient, Pascal Dauvin, en particulier à partir des années 90. Pourquoi à ce moment-là et comment se déroule cette professionnalisation?
Bon, on pourrait essayer de prendre la réponse à la question par deux côtés. Le premier côté, c'est finalement les ONG vont devoir se soumettre à la pression de leur environnement, et la pression de l'environnement, c'est la structuration et la montée en puissance de bailleurs qui sont à la fois des bailleurs étatiques, les UN ou un certain nombre d'agences qui sont travaillées par des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement managériaux qui correspondent à des standards et à des cadres cognitifs des démocraties libérales de l'époque, et donc pour être éligible à tous ces financements, pour être éligible à l'offre de ces bailleurs, les ONG vont devoir entrer dans ces catégories cognitives et elles vont devoir envoyer des signaux de managérialisation.
C'est là que la division du travail intervient.
C'est là que s'opère une division du travail qu'on va recruter, par exemple, de plus en plus de science-pistes, des gens qui viennent des écoles de commerce, et qu'on aura de plus en plus de spécialistes du remplissage de dossiers et du fichier Excel, même si je dis ça de manière un peu provocatrice et caricaturale.
Et la logistique, à ce moment-là, prend une place de plus en plus importante, pour en revenir à notre sujet du jour.
Alors, la logistique, elle prend une place de plus en plus importante, mais c'est lié aussi à un deuxième facteur, qui est la dynamique ou une dynamique propre aux organisations elles-mêmes, puisque à mesure que le travail se complexifie, à mesure que les secteurs émergent, différents fonctions, supports émergent, chacun va essayer de consolider son périmètre, à la fois en termes de recrutement, en termes de budget, parfois en entrant en concurrence avec d'autres secteurs de l'ONG. La conjugaison de ces deux facteurs a largement contribué à la professionnalisation des ONG, cette professionnalisation se faisant sur un mode particulier qui est celui de la managérialisation.
La logistique, c'est l'acheminement, mais c'est aussi la distribution. Or, vous l'avez dit à Pascal Dauvin, une distribution d'aide alimentaire a de nouveau fait des morts à Gaza, des tirs et une bousculade ont entraîné la mort de 5 personnes et fait 30 blessés samedi dernier. C'est donc, on le voit, extrêmement compliqué, Charlotte Schneider, à la fois d'acheminer la nourriture, mais aussi de la distribuer.
Oui, pour toutes les distributions. Dans toutes les situations de crise et d'urgence, que ce soit lié à un conflit conflit, que ce soit lié à une catastrophe naturelle, il y a une très forte tension et donc ça nécessite de l'organisation, ça nécessite de l'ancrage local le plus possible et ça nécessite effectivement des vrais professionnels en termes de travailleurs humanitaires sur les sujets de la logistique mais également de la distribution et donc de la connaissance des communautés, des interactions, des dynamiques locales, etc. Vous vous rappelez aussi au Yémen, c'était l'année dernière pendant une distribution pendant le Ramadan qui avait abouti à la mort de plus d'une centaine de personnes parce que un attroupement s'était formé dans une rue trop étroite. Ça, ce sont des dynamiques qu'il faut évidemment mesurer à chaque fois qu'on fait une distribution. Là, à Gaza, on en revient quand même vraiment à cette question de ce tuyau qui ne s'ouvre pas aux frontières hein, de Rafah et Kerch Shalom et qui du coup forcément entraîne une extrême tension de l'autre côté. Surtout que la plupart des acteurs et Action contre la faim en fait partie ne souhaitent pas recourir à des gardes armés pour sécuriser les distributions. Donc ça veut dire s'ancrer localement. Et effectivement aujourd'hui, pour le prendre d'un point de vue plus macro sur la logistique humanitaire, la tension à la fois sur le nombre de crises, le nombre de zones en demande d'appui, la baisse des financements, qu'ils soient privés ou publics, amène à des réflexions, j'ai envie de dire, de professionnalisation, mais aussi d'adaptation, d'agilité. Par exemple, la mutualisation de ressources. Je pense à une coopérative comme Hulot, qui est une coopérative humanitaire de logistique créée par plusieurs organisations, dont Action contre la faim. Je pense à toutes ces démarches qui permettent de dire on va vers un coût efficacité de la logistique qui augmente.
Oui, et puis la fourniture de kits alimentaires, de kits hygiène demande une logistique importante, mais l'aide médicale demande une logistique encore plus conséquente, Philippe Bonnet.
Alors sur l'aide médicale, moi je me garderai bien de
peut-être
de développer
Charlotte Schneider.
Oui, sur les médicaments, juste pour effectivement compléter, il y a des problématiques bien bien spécifiques de température, de conditions et de non exposition à la lumière, etc., qui rendent la logistique sur l'appro en médicaments encore plus complexe. J'ajouterais aussi que l'appro et le fait de pouvoir faire entrer, que ce soit à Gaza ou au Yémen ou en RDC, c'est aussi lié aux autorisations que vous avez. Et l'importation de médicaments est un sujet extrêmement complexe qui demande beaucoup de professionnalisme. Et donc, ça veut dire des équipes avec les coûts associés à ces équipes pour pouvoir le faire dans les règles de l'art.
La distribution, on l'a vu, pose des problèmes de sécurité pour les populations qui sont secourues, mais également pour les travailleurs humanitaires. Cette question de la sécurité des travailleurs prend de plus en plus de place aujourd'hui dans les interventions humanitaires, Pascal Dauvin.
Oui, alors peut-être qu'il faudrait aussi là, repartir un peu de l'esprit des origines et repartir sur les déclarations kouchneriennes ou l'ambiance dans laquelle le sans-frontiérisme est né, qui était fondée aussi sur une forme de romantisme, sur une façon de faire de sa vie un roman, sur une forme d'héroïsme qui est un peu passé, voire dépassé aujourd'hui. Et il était assez fréquent, enfin, dans les années 70, les années 80, d'avoir des récits qu'on continue d'ailleurs à voir, notamment dans les fictions et dans les films, d'un humanitaire qui est un peu addict à une forme d'adrénaline qui est liée au conflit et que finalement agir, c'est aussi mettre sa propre personne en risque. Il y a une mise en risque de sa propre vie dans l'action humanitaire. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas. D'ailleurs, les ONG, dans la mesure du possible et de leurs moyens, elles essaient de faire en sorte que ceux qui partent ne partent pas pour des raisons de ce type ou seulement pour des raisons de ce type. Parce que la société a aussi changé entre les années 70, 80 et aujourd'hui. Les démocraties libérales sont devenues aussi des systèmes politiques du principe de précaution, de la gestion des risques, de la gestion des incertitudes. Et donc la sécurité des humanitaires est devenue primordiale. Mais c'est aussi l'expérience de problèmes très graves, notamment des problèmes de kidnapping ou d'humanitaires qui sont morts. Et donc la question est devenue centrale sur l'agenda.
Des travailleurs humanitaires qui mettent leur vie en danger et qui peuvent aussi faire l'objet d'accusations extrêmement graves. Selon Israël, 12 employés de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, auraient eu partie liée dans l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Écoutez la réaction du commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, invité de la RTS le 13 février dernier.
Nous avons reçu ces allégations. Nous avons immédiatement mis en place une enquête interne. J'ai parlé avec les États membres aujourd'hui à Genève et je leur ai dit qu'il fallait faire attention à ces appels du démantèlement de l'organisation. Cela va affaiblir la réponse humanitaire et c'est certainement un moment où la Cour internationale de justice a demandé à la communauté internationale d'augmenter l'aide humanitaire. Eh bien, on verra un affaiblissement qui est déjà en train de se réaliser. Et il ne faut pas oublier que depuis le début de la guerre, plus de plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans les bâtiments des Nations Unies, alors que ces bâtiments, normalement, devraient protéger les civils. Et nous avons eu plus de 1000 personnes qui ont été blessées.
Charlotte Schneider, que vous inspire ces propos de Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA ?
Oui, une très grande clarté, c'est-à-dire que nous savons tous sur le terrain que l'UNRWA a rapidement pris des mesures à l'encontre des personnes incriminées. Nous savons tous également, et nous le vivons au quotidien, que la présence et le rôle de l'UNRWA à Gaza ne peuvent pas être remplacés par d'autres agences et qu'il s'agit du coup d'un acteur clé dans le soutien aux opérations d'autres agences. Donc la décision de plus de 12 pays de suspendre le financement de l'UNRWA se traduira forcément par une diminution de la nourriture, de l'eau et des abris pour les personnes déplacées à Gaza. Il est vital que les gouvernements donateurs continuent à soutenir financièrement l'UNRWA.
Philippe Bonnet, pour vous aussi, il est de plus en plus difficile d'assurer la sécurité des travailleurs humanitaires. On a parlé de Gaza, on peut également évoquer Haïti.
Alors, c'est aussi des points qui vont avec des éléments qu'on a auxquels on a parlé avant. Hein. La professionnalisation, ça va aussi dans cet objectif hein, d'avoir des professionnels pour assurer la sécurité des employés, des professionnels pour éviter qu'il y ait des morts pendant les distributions. Et vous l'évoquiez sur Gaza, les violences qui ont eu lieu en marge de distribution, c'est des distributions qui n'étaient pas organisées par des organisations. Pour revenir sur Haïti, sur laquelle nous, Desk Urgence, on n'intervient pas, mais où Solidarité est présent. Oui, il y a un moment, il y a un niveau de risque qui ne permet plus de travailler. Et dans ces cas-là, on va pas fermer, on va réduire les équipes pour qu'il y ait une adéquation entre le niveau d'activité qu'on peut avoir sur le terrain et les équipes qui restent, qu'elles soient d'ailleurs expatriées ou locales, parce qu'il faut pas oublier que la plupart des victimes dans les travailleurs humanitaires, c'est pas les expatriés, hein, c'est nos collègues nationaux qui sont les plus nombreux.
Et alors justement, comment les travailleurs humanitaires réagissent-ils face d'une part à ce danger, ces dangers bien réels sur le terrain, Charlotte Schneider, et puis face à ces accusations qui semblent de plus en plus importantes selon laquelle ces travailleurs seraient en réalité des acteurs politiques?
Alors, la première chose, c'est effectivement dans le cadre de la professionnalisation, la plupart des agences aujourd'hui humanitaires, un acteur comme Action contre la faim a tout un panel d'appui à ses salariés, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour faire face à des situations de très grand stress. Donc d'abord, c'est de l'appui, ce qu'on appelle le staff care, l'appui pour des premiers soins psychologiques quand on est face à une situation qui peut provoquer des très fortes décompensations. Ça peut être des situations dont on a été témoin ou dont on a été victime personnellement. On a en Centrafrique eu régulièrement des arrestations à des checkpoints de nos véhicules véhicule par des groupes armés non étatiques et des groupes armés privés venant de Russie, dont je ne citerai pas le nom, qui peuvent amener à des très fortes situations de stress, hein, en ayant une arme pointée sur soi, etc., pour des salariés qui sont des experts en eau, hygiène, assainissement, des personnels de santé, etc. Donc ça, on a tout un bagage qui permet d'accompagner les personnes avec du suivi psychologique. On a évidemment aussi toutes nos procédures en termes de sécurité et d'accès qui passent énormément par une connaissance des contextes. Donc, une professionnalisation d'équipes locales qui permettent d'ancrer l'acceptance de l'organisation. Et l'acceptance, c'est vraiment ce mot-clé qui permet aux populations et donc aux salariés de bien avoir la compréhension de leur périmètre, quels sont les principes d'action contre la faim, quels sont les principes humanitaires qui président à sa présence sur le terrain, le fait que le bénéficiaire d'une assistance soit jaune, vert ou noir ne nous intéresse pas, c'est l'entrée par les besoins, que ces aspects-là soient bien connus des populations et des partenaires sur le terrain, sont des éléments clés de réponse. Après, d'un point de vue plus global, il y a le respect du droit international humanitaire, le respect du droit de la guerre, le respect des résolutions des Nations Unies. Là, on parle beaucoup de la 24-17 pour Gaza. L'utilisation de la famine comme arme de guerre est interdite dans le droit et dans les résolutions des Nations Unies. Et donc, c'est aussi de plaider, de faire un fort plaidoyer pour que ces cadres-là soient respectés.
Pascal Dauvin, sur les menaces qui pèsent sur ces travailleurs, on l'a dit, menaces physiques, mais peut-être parfois allégations dont une partie peut constituer de la désinformation.
Alors, évidemment, là, on est un peu au cœur de ce que vous dites avec l'actualité de Gaza, mais c'est une question qui est née bien avant Gaza, et toutes les ONG savent bien quels sont aussi les enjeux qui existent autour du recrutement du personnel local, parce que, évidemment, ils sont plus ou moins dans le dispositif et dans la boîte noire, et on peut difficilement empêcher la politisation de son personnel local, même si on peut essayer de le contrôler. Mais ce que je voulais ajouter, enfin, sur les questions de sécurité, puisque vous étiez parti des questions de sécurité, c'est que aujourd'hui, là, comme l'a dit Charlotte, enfin, on a essentiellement du personnel qui est du personnel local. Enfin, c'est à la fois une façon de protéger les expatriés, mais c'est aussi une façon d'être au plus proche des besoins locaux. Et c'est très important, parce que ça renvoie aussi à la transformation ou à la volonté de transformer l'image de l'humanitaire qui n'a pas toujours été aussi positive et l'image d'expatriés qui n'ont pas toujours renvoyé localement des images très positives. Je parlais tout à l'heure de la matrice du sauveur blanc à propos des années 70-80. Aujourd'hui, les ONG, même les plus internationales, ont parfois tendance à se qualifier d'ONG locales parce qu'il y a un concept qui est devenu un peu concept incontournable, qui est celui de la localisation, qui entend en gros faire en sorte que l'aide humanitaire soit au plus près des bénéficiaires et mise en œuvre par du personnel qui est du personnel local pour éviter les
critiques du néocolonialisme.
Voilà, et de l'impérialisme. Ce qui explique d'ailleurs aussi, en termes de communication, que tout l'imaginaire qui consistait à mettre un médecin blanc avec un bébé noir correspondait pas du tout déjà à la situation, ne correspond plus du tout à la situation d'aujourd'hui.
Rien qu'au cours des derniers jours, on a organisé 10 convois vers des villes proches de la ligne de front, donc à la fois à l'est et au sud, 20 km jusqu'à 12 km de la ligne de front, pour apporter vraiment une aide avec des biens de première nécessité aux personnes, des couvertures thermiques, des sacs de couchage, des lampes solaires, pour faire face en fait à l'absence de chauffage, à l'absence d'électricité, mais aussi des moyens de se chauffer, donc des petits radiateurs. Et lorsqu'on apporte de l'aide, les personnes nous disent qu'elles vivent en fait sous des bombardements quotidiens, très souvent dans leurs caves. Rien que le fait d'entendre les alarmes, les sirènes, en fait, de façon très très régulière, de devoir se mettre à l'abri, tout ça, sur la longue durée, effectivement, crée un état de stress. On les aide à continuer une vie malgré la guerre.
Céline Schmitt du Haut Commissariat aux réfugiés à Kiev dans un reportage en Ukraine du 24 février 2023 sur France Inter. Alors on l'a dit, les ONG se sont professionnalisées et il y a aussi de plus en plus d'innovations qui permettent de prêter assistance plus efficacement aux populations en détresse. Charlotte Schneider.
Alors écoutez, ce qui est certain, c'est que là, en entendant Céline Schmitt, on pourrait vraiment copier-coller les mécanismes qui sont utilisés et les outils qui sont utilisés pour faire face à des situations de grand stress dans plusieurs thématiques. Aujourd'hui, sur les innovations, on a en particulier les aspects qui peuvent aider, pour revenir aussi au sujet de la logistique, c'est la mutualisation, c'est la professionnalisation des équipes et l'acceptance toujours renouvelée auprès des populations, c'est le fait d'avoir les moyens de faire aussi quand il n'y a pas encore la focale médiatique. Je pense là, on évoquait l'Ukraine à l'instant et Gaza qui ont eu beaucoup d'attention médiatique et donc des bailleurs de fonds, mais on a beaucoup de crises en cours sur lesquelles nos équipes essayent de répondre et où là, tout ce qui est fait avant d'avoir la focale médiatique est aussi extrêmement puissant comme capacité de réponse de la part des populations. Donc cette question de l'anticipation, et je prends un exemple, on va avoir bientôt des chiffres beaucoup plus nets sur ce qui se passe au Darfour et ses conséquences sur le Tchad. Ça va à un moment donné être dans l'actualité. Les acteurs humanitaires, avant que ça devienne aussi important, travaille à outiller les populations. Et donc, un chiffre qu'il faut peut-être retenir, c'est 1 euro investi avant la crise permet d'économiser 7 euros pendant la crise. Et donc, tout ce qui est l'anticipation et la préparation et l'outillage pour les populations est aussi quelque chose sur lequel les ONG vont beaucoup plus aujourd'hui.
Oui, et puis on parlait d'évaluation des besoins, mais de plus en plus, on évalue l'efficacité de la réponse, de la logistique humanitaire, Pascal Dauvin.
Oui, puisque l'évaluation, c'est un des volets de la managérialisation que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'entrer dans la réalité par la gestion de projets qui suppose d'évaluer avant, d'évaluer pendant et d'évaluer après, ce qui explique aussi pourquoi les humanitaires ont parfois le sentiment de passer beaucoup de temps à remplir des dossiers, parce que il faut évaluer. Et l'évaluation, c'est à la fois essayer de connaître la réalité, essayer de l'objectiver au plus près possible de ce qu'elle est, mais c'est aussi une façon de légitimer l'action, là encore par rapport à des critères qui sont les critères des démocraties libérales, puisque dans le système de valeurs qui fait consensus, il faut être transparent. Et l'action humanitaire, elle se doit aussi elle-même d'être transparente, à la fois dans ce qu'elle fait, et dans les résultats qu'elle obtient et dans la manière dont les opérateurs ont agi.
Et on va continuer toute cette semaine à parler de l'économie des ONG humanitaires, d'autant plus importante que les catastrophes climatiques risquent de se multiplier dans les prochaines années. Merci beaucoup à tous les trois, Charlotte Schneider, Philippe Bonnet et Pascal Dauvin, de nous avoir éclairés sur ces enjeux extrêmement importants. Merci beaucoup à Thomas Néolier, Pradel également de France Bleu Touraine, qui a assuré ce duplex. Cause I know. parole dans Ton Pays l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est This Is Nowhere, le nouveau single des Black Keys qui seront en concert au Zénith de Paris les 12 et 13 mai prochains. Demain, les ONG humanitaires sont-elles des acteurs économiques? Nous en parlerons avec Nathalie Ferrière et Philippe Riffman. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous les cours.